Rencontre autour d'un livre intitulé « Le GIGN par ceux qui l'ont commandé » paru aux éditions Mareuil. Et dans ce livre, pour la première fois, une dizaine de commandants du GIGN menés par l'un d'entre eux, qui se trouve avoir été journaliste par ailleurs à l'AFP pendant 40 ans, ces commandants du GIGN racontent 50 ans de vie de cette unité mythique depuis sa création en 1974 jusqu'à aujourd'hui. Lise, je vous laisse le soin d'en parler avec un de ces commandants du GIGN.
Oui, je suis ravie de recevoir ce matin Pierre-Marie Giraud, ancien patron du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc, ce livre s'intitule « Le GIGN par ceux à qui l'ont commandé » et c'est une plongée à l'intérieur de cette unité mythique. 12 anciens patrons du GIGN ont tous répondu présents à ce projet donc de Pierre-Marie Giraud. Et c'est vrai que moi, je trouve que le GIGN, c'est vraiment quelque chose d'assez peu connu, en fait. Et ça commence sur les chapeaux de roue avec une prise d'otage, celle de 1994 à Marseille. Ça parle également de Munich et de la façon dont cela a changé la façon de voir en fait de la gendarmerie française par rapport à ce qu'il faudrait faire sur le terrain. Et pendant des heures d'entretien, donc sans aucune langue de bois, puisqu'il est l'un d'entre eux, ces anciens patrons du GIGN ont remonté le fil de leurs souvenirs. Ils racontent leur formation dans les grandes écoles militaires, puisqu'ils ont presque tous fait Saint-Cyr. Ils racontent leur entrée dans la gendarmerie, puis au GIGN, les opérations, l'entraînement, les évolutions de cette unité. Et ils reviennent également sur les raisons de leur engagement, sur la façon de commander cette unité, sur les obstacles qu'ils ont pu rencontrer, sur les regrets qu'ils ont. Bref, voilà, c'est une plongée extraordinaire au cœur du GIGN. Alors, dites-moi, absolument, Pierre-Marie Giraud, la devise, votre devise, c'est « s'engager pour la vie ». Qu'est-ce qui fait que vous êtes, vous, devenu à la fois gendarme, mais surtout membre du GIGN? Comment on s'engage comme ça?
Attendez, moi, je suis journaliste, je ne suis pas membre du GIGN, hein, ni gendarme. Hein. Je suis journaliste,
vous n'avez pas été commandant, en fait, vous?
Non, j'ai recueilli les témoignages des 12 commandants.
D'accord.
Du GIGN depuis le début, depuis le créateur Christian.
Ah, je croyais que vous l'aviez vous-même été.
Non. Jusqu'au commandant actuel, le général Réti.
Alors, ces commandants, donc, ils vous ont ouvert toutes les portes, en fait, Pierre-Marie Giraud, et ils vous ont raconté tous leurs souvenirs, leur entraînement et la façon dont ils gèrent cette unité mythique.
Oui. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers leurs témoignages, donc ce sont des souvenirs qui s'étalent sur 50 ans, on voit les conditions dans lesquelles ont été créés le GIGN, l'évolution de ces matériels, de ces procédures, de ces engagements, le récit des grandes opérations. Donc, grâce à eux, j'ai pu dresser un panorama complet du GIGN depuis 1974.
Alors, expliquez-nous, Pierre-Marie Giraud, en quoi Munich a fait un coup de tonnerre, si j'ose dire, en France et sans doute dans d'autres pays, et entre autres, participer à cette création de cette unité du GIGN.
Alors, Munich, la prise d'otages de Munich et la mort de tous les otages israéliens lors de l'assaut manqué de la police allemande a été un choc énorme dans le monde et également pour les polices de tous les pays. C'est une réflexion qui s'est lancée pour savoir comment il faudrait intervenir contre des hommes armés et bien armés et qui sont très résistants. Comment peut-on intervenir pour engager la négociation avec eux pour négocier la libération des otages et éventuellement pour donner l'assaut si la négociation ne donne rien. Donc, c'est en 72 et depuis 1972, la gendarmerie commence à réfléchir à une unité qui puisse faire ce travail d'intervention qui n'était pas du tout prévu dans les, ni dans les textes, ni dans les unités. Il n'y avait pas de, de procédure d'intervention. Donc, toute la réflexion s'est lancée là. Et je vous fais simplement remarquer que la même réflexion s'est engagée en Allemagne et en Israël, puisque en 1974, trois unités ont été créées, le GIGN en France, le GSG9 en Allemagne et le YAMAM en Israël, qui fait partie des gardes frontières.
Alors justement, Pierre-Marie Giraud, est-ce que vous savez si le GIGN collabore avec le YAMAM ?
Ah bah, y a des échanges depuis, depuis 50 ans, hein, des échanges réguliers, des retours d'informations. Par exemple, pour alors c'est soit en bilatéral, hein, entre le YAMAM et le GIGN, soit en multilatéral, dans de grands débriefings. Par exemple, le plus grand débriefing qu'il y a eu, c'est le débriefing qui a suivi quelques mois après décembre 1994 et la libération des otages à bord de l'Airbus d'Air France à Marignane, dans le sud de la France. Il y a eu un grand débriefing à l'école militaire à Paris, au cours duquel toutes les unités d'intervention sont venues pour écouter le débriefing du GIGN et poser des questions sur les interventions. La coopération bilatérale est très importante entre les unités et particulièrement, évidemment, entre le YAMAM et le GIGN.
Qu'est-ce qui vous a le plus épaté dans la personnalité de ces anciens commandants du GIGN, Pierre-Marie Giraud, puisque vous les avez tous rencontrés ?
Ce qui m'a le plus épaté, c'est à la fois leur ténacité, leur sérénité. Ce sont des hommes très tenaces, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir engager la vie de leurs hommes pour une opération d'urgence, pour libérer des otages. Et c'est leur sérénité, parce qu'ils sont toujours... Le témoignage, je pense, le plus intéressant qui est dans mon livre, c'est le témoignage de Denis Favier, qui a été... qui a mené l'assaut à Marignane en décembre 1994 et qui raconte l'assaut de l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'à la fois, l'assaut est extrêmement violent et en même temps, c'est très bruyant, mais ça n'empêche pas la réflexion du commandant du GIGN qui mène l'assaut pour savoir comment il va essayer de conclure cet assaut.
Oui, vous décrivez également, parce qu'ils sont assez jeunes en fait, puisqu'ils ont entre 24 et 34 ans. Donc, oui, il faut une grande volonté, effectivement. Et 14 mois de formation, on voit bien que c'est assez dur et très difficile, cet entraînement, à la fois physiquement et mentalement.
C'est très difficile. Ça commence par une semaine de tests, à l'issue desquels on retient une trentaine d'hommes, de femmes. Ensuite, ils ont deux mois de préformation et ensuite 12 mois de formation complète qui se conclut par le brevet qui leur est remis et qui solennellement et qui signe leur entrée au GIGN. Donc c'est un entraînement extrêmement dur. Car on dit toujours qu'un entraînement difficile, opération facile, mais c'est vrai. Et très souvent, ils sont dans des conditions d'entraînement plus difficiles et plus lourdes que dans la réalité. Mais lorsque la réalité les rattrape, c'est-à-dire comme à Marignane ou à Djibouti, par exemple, pour la libération d'un quart d'enfants, il faut qu'ils puissent intervenir dans les meilleures conditions et avec les meilleurs moyens.
Merci beaucoup Pierre-Marie Giraud d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le GIGN par ceux qui l'ont commandé » chez Mareuil Éditions. Bonne journée à vous et à bientôt.
Je vous souhaite une bonne journée, madame, et à vos auditeurs également.